Depuis l'aube de l'humanité, certains royaumes sont devenus des empires qui ont marqué l'histoire. Parmi les plus grands, on compte l'Égypte. Baigné par le Nil, c'est un pays béni et le panier à pain du Moyen-Orient. C'est aussi en Égypte que la famille de Jacob, petit-fils d'Abraham, devient la nation d'Israël. Oui, mais tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si pendant des millénaires, l'Égypte est la puissance incontestée du Moyen-Orient, son déclin fut relativement rapide. Ézéchiel écrit 7 oracles sur l'Égypte. Et il n'est pas le seul. Ésaïe, Jérémie et d'autres prophètes prophétisent aussi contre ce pays. L'Égypte est envahie une première fois par les Assyriens. Mais ce sont les Babyloniens qui lui portent le coup fatal. D'abord vaincus à Carchémish, les Égyptiens subissent plusieurs revers militaires avant d'être mis à sac par Nabucodonosor. C'est Dieu qui fait mordre la poussière au pharaon, comme d'ailleurs à tous les grands conquérants de ce monde à cause de leur orgueil. Quand une nation s'élève, l'Éternel l'abaisse. Un défi directeur des prophéties de l'Ancien Testament. Et que tôt ou tard, Dieu juge les péchés des hommes, qu'ils soient israélites ou païens. Cette vérité solennelle est toujours d'actualité, et ceux qui n'acceptent pas Jésus comme sauveur subiront un châtiment éternel. Dans le chapitre 31 du livre d'Ézéchiel, le prophète menace le pharaon à cause de son orgueil et pour bien lui faire sentir que ses paroles ne sont pas vaines. Il prend pour exemple le sort qui a frappé l'immense empire assyrien qu'il compare à un cèdre majestueux. Il faut garder à l'esprit que dans les prophéties, l'empereur et l'empire sont interchangeables et assimilés l'un à l'autre. Je continue de lire le texte d'Ézéchiel. Des étrangers de la plus violente des nations l'ont abattu et laissé là. Ses branches sont tombées sur les montagnes dans toutes les vallées. Ses rameaux ont été brisés dans tous les cours d'eau du pays. Et tous les peuples de la terre ont fui loin de son ombre et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel viendront pour s'établir sur son tronc abattu. Et les bêtes sauvages s'abritent dans ses branches. La plus violente des nations a abattu le cèdre. Il s'agit d'une coalition dirigée par le roi Nabopolassar de ce qui est alors le petit royaume de Babylone, qui réussit à s'emparer de Ninive, capitale de la Syrie. 3 ans plus tard, Nabucodonosor, fils de Nabopolassar, met l'armée assyrienne en déroute. Cet empire qui était pourtant puissant se démembre alors et les nations qu'il tenait sous sa coupe sont affranchies de son joug. Le tronc du cèdre gît à terre et ses rameaux dispersés servent d'abri aux animaux qui représentent les divers peuples qui se partagent les richesses de l'empire assyrien déchu. Je continue. Et tout cela arrive afin qu'aucun autre arbre croissant au bord de l'eau ne devienne orgueilleux à cause de sa taille et n'élève sa cime jusque dans les nuages, et afin qu'aucun arbre arrosé par les eaux ne se dresse en hauteur poussé par son orgueil. Car ils sont tous voués à la mort pour descendre au séjour souterrain, au milieu des humains, avec ceux qui descendent dans la fosse. La terre est un immense cimetière où sont enterrés pêle-mêle rois, peuples et empires. Le jugement de la Syrie provient de l'Éternel afin d'enseigner aux grands de la terre qu'ils doivent mettre un frein à leur ambition. Cet avertissement d'Ézéchiel est adressé à Pharaon Necho, qui bombe encore la poitrine, bien qu'il ait déjà subi une cuisante défaite à Carchémish, quand il a voulu arrêter la montée en puissance de Babylone. Je continue en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts. J'ai fait mener le deuil et, à cause de lui, j'ai recouvert l'abîme, j'ai retenu ses fleuves et ses eaux écumantes ont cessé de couler. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les peuples. Dans les lieux souterrains, tous les arbres d'Éden, tous les arbres de choix, les plus beaux du Liban, qui s'abreuvaient aux eaux, ont été consolés. La chute de la Syrie a produit une vive émotion parmi les nations, au point où Dieu proclame un deuil quasi mondial. Ce langage hyperbolique montre que la fin de cet empire a jeté la surprise. À cette nouvelle, les nations alliées à la Syrie tremblent, tandis que celles qui avaient été vaincues sont consolées en voyant le puissant monarque assyrien partager leur sort qui leur avait fait subir. Je continue. Eux aussi, avec lui, ils sont tous descendus dans le séjour des morts, vers tous ceux que l'épée avait blessés à mort. Ils étaient son appui, et vivant à son ombre, au milieu des nations. Les nations vassales de la Syrie sont tombées avec elle sous les coups de boutoir de Babylone. Dans ce passage, il est question du séjour des morts, aussi appelé les lieux souterrains, Séol en hébreu. On a appelé ce passage l'enfer de Dante de la Bible. Le Séol est le lieu où vont les hommes des morts, les bons et les méchants, ceux qui ont foi en l'Éternel comme les autres. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon écrit que la poussière retourne à la terre d'où elle était venue et le souffle de vie remonte vers Dieu qui l'a donné. Seulement remonter vers Dieu ne veut pas dire aller au paradis, mais comparaître devant lui pour être jugé. L'Évangile selon Luc rapporte que Jésus explique dans une parabole que le séjour des morts est divisé en deux parties qui sont totalement séparées et divisées par un abîme infranchissable. L'une d'elles s'appelle le sein d'Abraham, et l'autre est une sorte d'antichambre du jugement. Ces deux endroits temporaires peuvent être comparés à des salles d'attente où les défunts sont enfermés. Seulement, elles sont très différentes parce que l'une est une prison dorée et l'autre le couloir de la mort éternelle. Comme le dit le catéchisme, après avoir rendu l'esprit sur la croix, Jésus est descendu aux enfers, c'est-à-dire dans le séjour des morts, pour ouvrir la porte de la prison dorée. Car grâce à son sacrifice, ceux qui s'y trouvaient avaient dorénavant accès à la présence de Dieu dans les lieux célestes. Les autres, qui se trouvent dans l'antichambre de la mort, attendent le jugement dernier, après quoi ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort, aussi appelée mort éternelle. Une fois mort, le corps devient la pâture des vers et des micro-organismes, car, faut-il le rappeler, nous ne sommes que poussière. Dans le psaume 103, on lit « Il, l'Éternel, sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. » La dame à la faux est la grande égalisatrice, car elle ne fait pas de quartier ni de distinction de classe. La mort est démocratique, car il n'existe pas d'échelle sociale dans le séjour des morts. Les riches et les pauvres, hommes et femmes, les blancs et les autres couleurs, sont tous au même niveau. Ceux qui se disent athées pensent qu'ils meurent comme un chien. On les enterre et c'est fini. Ils arrêtent d'exister. Mais la mort sera pour eux le choc de leur vie, car ils réaliseront alors qu'ils sont enfermés dans le couloir de la mort éternelle. Dans la Divine Comédie, Dante écrit « Vous qui entrez, laissez toute espérance. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur répondront présents au jour du jugement dernier et ils seront condamnés à porter eux-mêmes les conséquences de leurs péchés alors que Jésus-Christ a pris sur lui la culpabilité de ceux qui croient en lui. » La différence ne se situe pas au niveau des péchés, mais dans celui qui les porte. Les corps des croyants décédés pourrissent en terre comme les autres. Cependant, dans sa première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul compare la mort physique des croyants au sommeil. Ceux qui se croient importants devraient se rappeler que des grains de poussière qui se focalisent sur eux-mêmes deviennent de la boue. Je finis de lire le chapitre 31 d'Ézéchiel. Qui t'était comparable en gloire et en grandeur parmi tous les arbres d'Éden? Et pourtant, te voici descendu avec eux au séjour souterrain pour être couché là, au milieu des incirconcis, avec ceux qui sont morts, transpercés par l'épée. Tel sera le destin du Pharaon et de son nombreux peuple. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel a commencé son allégorie en demandant à l'Égypte « À qui ressembles-tu dans ta grandeur ?» Puis il a comparé à l'Empire assyrien. Il conclut son discours en s'adressant à nouveau au Pharaon et se projette dans l'avenir quand l'Égypte aura été jugée tout comme l'a été la Syrie. La honte qu'éprouvera le Pharaon sera intensifiée parce qu'il sera couché au milieu d'incirconcis, alors que lui-même, ainsi que tous les prêtres égyptiens, sont circoncis. Nous arrivons au chapitre 32, où les oracles contre l'Égypte, tout comme celles relatives à la ville de Tyr, se terminent par une double complainte. La première décrit la chute de la puissance égyptienne, et la seconde, la descente au séjour des morts de l'Égypte et du Pharaon. Je commence à lire le chapitre 32. Le premier jour du 10e mois de la 12e année, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, prononce une complainte sur le Pharaon, roi d'Égypte, dis-lui. Tu ressemblais à un jeune lion au milieu des nations, tu ressemblais jadis au crocodile dans les flots, tu te soulevais dans tes fleuves, et de tes pattes, tu en troublais les eaux, tu salissais tous leurs canaux. » Nous sommes en mars 585 avant Jésus-Christ, 2 mois après que la nouvelle de la destruction de Jérusalem soit parvenue aux Juifs exilés à Babylone. La fin de l'Égypte est maintenant si certaine qu'Ézéchiel doit prononcer 2 hymnes funèbres sur Pharaon. Ézéchiel a déjà composé de telles complaintes sur Juda, sur la ville de Tyr et sur son roi. Le lion représente l'Égypte en train de dévorer les peuples, car pendant des siècles, c'est la grande puissance conquérante. Le crocodile est le pharaon Orphra, qui, comme ses prédécesseurs, est un despote malfaisant, même envers son propre peuple. Je continue en compressant tout au long. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. J'étendrai sur toi mon filet lors d'un rassemblement d'un grand nombre de peuples, et ils te tireront dehors avec manasse. Je t'abandonnerai par terre dans les champs. Je te donnerai en pâture à toutes les bêtes sauvages. J'arroserai la terre du sang qui coulera de toi sur les montagnes et qui remplira les lits des torrents. Tout comme dans le Nil, on pêche les poissons avec un filet. C'est de cette manière que l'Éternel va enserrer le Pharaon. Ce filet est constitué de nombreux peuples qui composent l'Empire babylonien. Ils pénètrent en Égypte, l'encerclent et le détruisent. C'est une conquête sanglante, car les cadavres recouvrent les montagnes et le sang, remplaçant les eaux du Nil, inondent la plaine. Ce spectacle rappelle l'une des plaies que Moïse fit venir sur l'Égypte. Je continue en compressant. Lorsque tu t'éteindras, je voilerai le ciel. J'obscurcirai à cause de toi tous les astres qui luisent dans le ciel. Je t'envelopperai ton pays de ténèbres. Je plongerai beaucoup de peuples dans la consternation à ton sujet et, à cause de toi, leurs rois seront pris d'épouvante lorsque je brandirai mon glaive devant eux. Et au jour de ta chute, chacun d'eux, sans arrêt, tremblera pour sa vie. Ce jugement aussi est semblable à l'une des plaies d'Égypte, sauf qu'ici, c'est pire. Apprenant qu'un grand nombre de monarques est tombé sous le glaive de l'Éternel, tous ces petits roitelets croient voir l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Je continue. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'épée du roi de Babylone pénétrera en toi, et je ferai tomber la multitude de ton peuple sous l'épée des guerriers du plus brutal des peuples. Ils le viendront ravager, ce qui fait l'orgueil de l'Égypte, et tous ses habitants seront exterminés. Lorsque j'aurai réduit l'Égypte en une terre dévastée, quand le pays sera vidé de tout ce qu'il contient, lorsque j'aurai frappé tous ceux qui y habitent, à ce moment-là, on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Voilà la complainte que l'on chantera. Ce sont les filles des nations qui la chanteront. Elles la chanteront sur l'Égypte et sur toute sa nombreuse population. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. La partie du chant funèbre n'est plus symbolique, mais une description littérale des événements. Selon la coutume de l'époque, ce sont les jeunes filles de chaque nation qui chantent cet hymne funèbre en l'honneur de l'Égypte et du Pharaon. Je continue. La 12e année, le 15e jour du mois, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, entonne un chant funèbre sur la population nombreuse de l'Égypte. Fais-la descendre, elle et les peuples des puissantes nations, dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. En quoi vaudrais-tu mieux que d'autres? Descends et couche-toi à côté des incirconcis. » Ici commence le 7e et dernier oracle contre l'Égypte. Il est prononcé 14 jours après le précédent et comporte 7 strophes. La première et la dernière concernent l'Égypte, mais les autres s'adressent à diverses nations dont la ruine est rappelée à l'occasion de celle de l'Égypte. Cette seconde complainte décrit la descente aux enfers de l'Égypte et du collectif de ses rois. Afin de bien souligner l'état d'impuissance auquel cette nation est désormais réduite, comme le prophète parle au nom de Dieu, ses paroles déclenchent le jugement qu'il annonce. Et la complainte devient un hymne funèbre entonné pour l'ensemble du monde païen. Dans l'Ancien Testament, le sépulcre terrestre et le Séol sont souvent confondus parce que les anciens ne font guère de différence entre l'âme et le corps, car l'un comme l'autre deviennent impuissants après la mort. Je continue. Voici qui tomberont au milieu des victimes transpercées par l'épée. L'épée est déjà prête. Entraînez-la avec cette multitude, les plus vaillants héros, avec ceux qui, jadis lui donnaient leur soutien, eux lui diront. Ce jour-là, dans le séjour des morts, les voilà descendus et les voilà couchés à côté des incirconcis transpercés par l'épée. La scène est macabre. Le roi et leur royaume, jadis alliés à l'Égypte et qui sont déjà descendus dans le séjour des morts, lui souhaitent la bienvenue. Je continue en compressant. Car là est couchée la Syrie et toute son armée autour de son tombeau. Tous sont tombés blessés à mort sous les coups de l'épée. On a mis son tombeau tout au fond de la fosse. Le voilà entouré de ses vaillants guerriers. Tous sont tombés, eux, qui terrorisaient le monde des vivants. Ici encore, le sépulcre terrestre est identifié au séjour des morts. L'empire assyrien, que le prophète a déjà utilisé comme exemple, est placé en tête de liste parce que c'est le plus puissant ennemi de l'Égypte. Je continue. Là est couché Élam et toute son armée entourant son tombeau. Tous sont tombés, blessés à mort sous les coups de l'épée. Peuple d'incirconcis, les voilà descendus au séjour souterrain, eux qui terrorisaient le monde des vivants. Autour de son tombeau sont ses nombreux soldats, et ils portent sur eux leur déshonneur, avec tous ceux qui sont descendus dans la fosse. Élam est situé sur le versant du Zagros, la haute montagne qui borde l'est de la Mésopotamie. Au temps d'Abraham, Élam est un petit empire. Des découvertes archéologiques ont permis de retracer l'histoire de cette monarchie. Les Élamites se sont d'abord alliés avec les Mèdes et Babylone contre la Syrie, puis, suite à un renversement d'alliance, ils se sont alliés aux Perses contre Babylone. Là sont Méchec, Toubal et toute leur armée autour de leur tombeau. Ils ne reposent pas à côté des guerriers qui sont descendus dans le séjour des morts revêtus de l'armure. Non. Le poids de leurs crimes repose sur leurs os, car ces guerriers terrorisaient le monde des vivants. Méchec et Toubal sont des hordes scythes originaires du nord de la mer Noire. Ils font des incursions rapides et meurtrières dans l'empire assyrien, jusqu'en Palestine et en Égypte, ravageant tout sur leur passage, puis disparaissent aussi vite. Mais les cadavres des scythes tués en cours de route ne sont pas ensevelis comme ceux des hommes. Ils ont péri en combat régulier et qu'on enterre avec honneur dans leur armure. Je continue. Toi aussi, Pharaon, te voilà abattu au milieu des incirconcis. Oui, te voilà couché avec ceux qui ont péri par l'épée. La santé d'homme, ses rois et tous ses princes qui, malgré leur vaillance, se trouvent avec ceux que l'épée a tués. Tous ces guerriers morts au combat sont des jeunes hommes dans la force de l'âge. Je continue. Là sont couchés aussi les seigneurs du Septentrion. Tous ceux et tous les Sidoniens, ils sont couchés incirconcis avec ceux que l'épée a fait périr, et ils portent sur eux leur déshonneur avec tous ceux qui sont descendus dans la fosse. Le seigneur du Septentrion sont les rois de Damas et de Syrie qui ont été vaincus par les Assyriens peu de temps avant le royaume israélite des 10 tribus du Nord. Je finis de lire le chapitre 32. En les voyant, le Pharaon pourra se consoler du sort de son peuple nombreux. Le Pharaon et son armée périront par l'épée, car je l'avais laissé répandre la terreur au monde des vivants. Le voyant donc couché au milieu des incirconcis avec ceux que l'épée a fait périr. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ainsi s'achève l'hymne funèbre prononcé sur l'Égypte qui est détruite par Babylone. En arrivant au séjour des morts, le Pharaon se console de sa défaite en voyant tous les monarques semblables à lui qui l'ont précédé sur le trône de l'Égypte. Il s'agit du collectif des pharaons qui ont régné sur l'Égypte durant tout le temps où elle était un puissant empire. Bien que ce chapitre parle beaucoup du séjour des morts, la prophétie d'Ézéchiel est une allégorie qui ne nous donne guère de renseignements sur cet endroit. Ce sont les auteurs du Nouveau Testament, et le Seigneur en particulier, qui nous renseignent sur ce qui se passe outre-tombe, et ce qu'ils disent donne la chair de poule. Une très bonne raison d'accepter Jésus comme son sauveur.